écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Les footballeurs se reposent à la Coupe du Monde quand il n'y a pas de match au Qatar. Il y a le 19-20 au programme ce soir. Cette image saisissante dans le 18e arrondissement de Paris. Des enfants escortés par des policiers municipaux sur le chemin de l'école maternelle. Pas d'autre choix car le quartier renferme de nombreux consommateurs de crack. À 19h40, nous serons avec Bruno Duboc, riverain et membre des associations Union Parisienne et Ney Village. Vos réactions sont les bienvenues. Vous nous appelez au 39-21. Nous en parlons aussi dans votre journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Reportage dans un instant dans ce quartier de la Porte d'Aubervilliers. 100 euros d'indemnité pour les salariés les plus modestes qui ont besoin de leur voiture. C'est ce qui va remplacer la ristourne à la pompe. Nous verrons qui y aura droit. Le message est passé, les Français font des économies d'énergie, baisse de la consommation de plus de 8%.
Voilà, RTE le dit, la consommation baisse, mais il faut aussi voir derrière les chiffres bruts une réelle crainte économique. Nous en parlons avec le chercheur Pouk Vin Nguyen et André Garreta, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque, où 80% des entreprises sont touchées par la hausse des prix de l'énergie. Vos questions au 39-21, ce sera juste après le journal.
À la une également, la baisse du niveau des CM2 en orthographe et Elon Musk qui installe des dortoirs au siège de Twitter.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Alors le temps restera nuageux et froid dans les régions de la moitié nord demain, alors qu'il tournera à la pluie dans le sud et la pluie va d'ailleurs s'accompagner de douceur. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène.
Europe 1.
Dans le quartier parisien de la Porte d'Aubervilliers, cela fait maintenant plusieurs mois que la police municipale escorte les familles sur le chemin de l'école.
Oui, comme l'a révélé le Parisien ce matin, il s'agit d'éviter aux enfants de mauvaises rencontres, en l'occurrence celles de consommateurs de crack. Clotilde Dumay, vous vous êtes rendue dans ce quartier du 18e arrondissement de Paris.
Oui, j'étais aux côtés des deux policiers présents ce soir à la sortie de l'école, prêts à raccompagner les enfants qui doivent emprunter un petit chemin où les toxicomanes se sont installés. Habiba, elle, est rentrée à la maison avec son papa.
Je suis inquiète parce que c'est pas normal qu'ils viennent dans la rue.
Il ne faut jamais aller à l'école tout seul, rentrer tout seul. En fait, dès qu'elle voit quelqu'un de bizarre, limite à pleurer. Il y a des actes sexuels, de la drogue. Dans ce quartier-là, tout ce que vous ne devez pas voir, vous le voyez.
Alors quand les policiers ne sont pas là, certains parents préfèrent faire un long détour en prenant les transports parce que la présence des toxicomanes inquiète véritablement toute l'école.
Même les institutrices, pour venir travailler, se font agresser. Elles viennent la peur au ventre. C'est pas bon pour les enfants, c'est bon pour personne.
Oui. J'ai d'ailleurs croisé une jeune consommatrice de drogue qui regrette, elle aussi, cette situation.
Moi, franchement, je veux plaindre les gens qui habitent ici. Parce que même moi, ça me fait chier. Moi, quand il y a des enfants, je me cache sous ma veste. Je me mets à leur place, j'ai des enfants, je sais pas quoi dire aux enfants. Mais après, qu'on soit mis dans un lieu où autour du lieu, il y a ce qu'il faut pour nous aider, en fait.
En tout cas, le maire du 18e arrondissement assure que la présence des policiers sera maintenue en attendant de trouver une autre solution.
Le maire Éric Lejoindre qui juge d'ailleurs cette situation totalement folle et indigne. Les réquisitions sont tombées au procès du crash du Rio Paris. 228 personnes avaient été tuées dans l'accident en 2009. Le parquet ne demande aucune condamnation pour Airbus ni pour Air France car leur culpabilité paraît impossible à démontrer. Colère et incompréhension des parties civiles.
Adieu la ristourne sur les carburants. Bonjour la prime pour les conducteurs les plus modestes.
Oui, cette ristourne de 10 centimes à la pompe dont tout le monde pouvait profiter prend fin, vous le savez, au 31 décembre. On connaît désormais le dispositif qui la remplacera. Une indemnité carburant de 100 euros pour les Français qui ont de petits salaires et ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Précisément, Barthélémy Philippe, qui aura droit à cette indemnité ?
Environ 10 millions d'actifs, mais pas n'importe lesquels. L'aide sera versée en fonction des revenus de 2021. Pour une personne seule, le seuil d'accès correspond à un salaire de 1 315 euros net maximum, 3 285 euros pour un couple avec deux enfants. Selon Matignon, ce nouveau chèque carburant représente un rabais de 10 centimes par litre pour un travailleur qui roule environ 12 000 km par an. L'aide est cumulable. Un couple d'actifs qui possède deux voitures peut donc toucher deux fois 100 euros. Électrique ou thermique, tous les véhicules, y compris les deux roues, sont concernés. Pour réclamer l'aide, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr à partir du 1er janvier. Une fois connecté, respectée. Indiquez votre numéro fiscal, la plaque d'immatriculation et le numéro de carte grise de votre véhicule. Il faudra aussi remplir une attestation sur l'honneur prouvant que vous allez au travail en voiture. Enfin, l'aide sera versée sur votre compte bancaire courant janvier.
Alors, qu'en pensent les automobilistes ? Réponse dans une station-service de la banlieue toulousaine.
100 euros, c'est pas négligeable, quoi. Ouais. Surtout pendant les temps qui courent. Enfin, là, en deux mois, j'ai payé 120 euros d'électricité. Je suis toute seule dans un 60 mètres carrés. C'est hors de prix, franchement. Donc, 100 euros, c'est bienvenu.
C'est normal que certaines personnes en profitent, mais après, ça se substitue pas à une baisse du prix et des taxes sur les produits pétroliers. Ça serait plus équilibré, je pense. Et après, je suis pas sûre que ça compense le surplus de dépenses en carburant pour aller travailler.
Cette prime, je l'ai pas. Dans les revenus, on dépasse. Dans tous les cas, on est pile poil à la limite pour rien avoir, quoi.
Des propos recueillis par Benjamin Péter.
La crainte de coupures d'électricité, on en parle sans arrêt. Ces coupures ne sont pas inéluctables, affirme Olivier Véran.
Oui, selon le porte-parole du gouvernement, on peut les éviter si les Français font de petits gestes supplémentaires pour réduire leur consommation. Justement, on sent bien que le message est déjà passé. La consommation d'électricité a chuté de 8,3% par rapport à la même période l'an dernier. Ce sont des chiffres du gestionnaire du transport d'électricité RTE. La chasse au gaspillage a donc bien commencé, Guillaume Dominguez.
Oui, et ce sont surtout les factures d'énergie qui inquiètent les Français. Alors pour faire des économies, tous les gestes sont bons.
Je passe souvent après les gens à la maison pour éteindre la télé parce qu'ils peuvent la laisser allumée alors qu'on n'est pas devant. On fait attention pour les machines à laver ou le four allumé pour rien.
On a une grosse prise électrique dans laquelle on a branché la télévision, le décodeur, la Wi-Fi, etc. Et le soir, dès qu'on se couche, on coupe tout.
Et certains vont même plus loin. Bernadette, par exemple, n'allume tout simplement plus la lumière à la maison.
Je me suis acheté une lampe tempête qui se recharge avec l'énergie solaire. Donc je la mets sur ma fenêtre tous les matins et je la rentre le soir et je m'en sers pour regarder ma télé. Et le matin, je la mets dans ma salle de bain pour faire ma toilette.
Des bons gestes qui permettent déjà à certains Français comme Agnès de réaliser des économies.
Entre novembre 2021 et novembre 2022, nous avons fait une économie de 386 euros. En faisant très attention au chauffage, l'électricité, l'utilisation des appareils aussi électroménagers. En faisant un effort, on réduit vraiment notre consommation.
Et pour toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, le véritable test pour ces éco-gestes commence maintenant avec cette première vague de froid qui touche la France depuis plusieurs jours.
Guillaume Dominguez, les particuliers, vous et moi, on fait tous des efforts parce qu'on voit bien les prix s'envoler.
Les entreprises, elles, n'ont parfois pas d'autre choix que de réduire leur production.
Et non, le géant de la conserve Cofigeo annonce ainsi l'arrêt pour janvier de la moitié de ses usines en France. Ce sont des marques bien connues comme William Sorin, Garbit ou Zappetit. En fait, Margot Fodéré, c'est quasiment toute la production qui s'arrête.
Oui, sur les 8 usines du groupe, les 4 principales vont s'arrêter le 2 janvier. Et pour le moment, aucune date de remise en route n'est fixée, confie le groupe à Europe 1. Concrètement, sur les 1200 collaborateurs de l'entreprise, 800 vont être mis en activité partielle longue durée. Et donc au total, 80% de la production va être stoppée. Pourquoi ? Eh bien parce que la facture d'énergie devrait être multipliée par 10 l'année prochaine. Le groupe préfère arrêter de produire plutôt que de produire à perte. Et ce n'est pas le seul à y être contraint. Dans le secteur des engrais, par exemple, un secteur où le gaz naturel peut représenter jusqu'à 90% des coûts, on parle d'une réduction de la production en Europe de l'ordre de 60 à 70%. Et des décisions du même type ont été annoncées dans d'autres secteurs, notamment dans l'industrie du verre ou la métallurgie.
Margot Fodéré.
Et nous en parlerons tout à l'heure avec André Garreta, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque. 80% des entreprises de sa région sont touchées par la hausse des prix de l'énergie. Il demande des aides supplémentaires de l'État. Ce sera après 19h20. On marque une pause et nous allons parler de l'inquiétant niveau en orthographe des élèves de CM2. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
La suite du journal d'Hélène Zélani. Les petits Français sont de plus en plus fâchés avec l'orthographe.
Ah oui, selon la dernière étude du ministère de l'Éducation, le niveau des élèves de CM2 continue à baisser avec une moyenne de 20 fautes sur une dictée de 70 mots. Sur la même, les CM2 de 1987 faisaient deux fois moins d'erreurs. Louise Salé, aujourd'hui, à 10 ans, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes en orthographe ?
Eh bien, sans surprise, ce sont les règles d'accord entre le sujet et le verbe, le groupe nominal et surtout le participe passé. Des fautes qui persistent ensuite dans la scolarité. Étienne Gomez enseigne le français au lycée, dans un établissement de Seine-Saint-Denis. Voici les erreurs qu'il corrige le plus.
Des mots qui sont concaténés. Par exemple, je prends davantage avec ou sans apostrophe. Bon, bah, les élèves font pas forcément la différence. J'observe de plus en plus certains anglicismes. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas vu bien orthographier des mots comme langage. Donc, langage, toujours avec un U. J'observe aussi, par exemple, des choses dans les expressions imagées qui sont mal reconnues. Récemment, j'ai vu prendre son courage à deux mains, orthographier à deux mains, comme quand on dit au revoir à quelqu'un. Il y en a beaucoup.
Et la faute sans doute aux écrans, mais aussi au manque de lecture, notamment car cela appauvrit le vocabulaire.
Je trouve que les élèves qui ont beaucoup de lacunes sont aussi ceux qui ne lisent pas, donc ils ne sont pas exposés régulièrement à l'orthographe telle qu'elle est respectée dans les livres.
Pour éviter les fautes, un remède, et les professeurs sont unanimes sur ce point, mettez un livre dans les mains de tous les enfants.
Voilà le bon conseil du soir, Louise Salé. Une reconnaissance pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky est nommé personnalité de l'année 2022 par le prestigieux magazine américain Time, qui rend aussi hommage en une à l'esprit de l'Ukraine.
En 2021, Elon Musk était distingué par le Time. Parlons de lui justement, le milliardaire vient de franchir un nouveau pas dans la gestion de Twitter.
Oui, surprise de taille pour les salariés du siège de l'entreprise à San Francisco. Certains bureaux ont été transformés en chambre à coucher, Alexis Guilleux, symbole du travail vu par le nouveau patron Elon Musk.
Oui, d'après des salariés, plusieurs pièces des locaux ont été transformées en mini dortoirs tout équipés, lits, rideaux, tables et lampes de chevet. Selon le magazine Forbes, il y aurait 4 à 8 chambres de ce genre par étage dans les locaux de Twitter. Cette nouveauté correspond à la volonté affichée par Elon Musk, voir ses employés s'engager sans relâche pour le réseau social. Le mois dernier, le milliardaire a même lancé un ultimatum à ses salariés, travailler à fond pour Twitter ou quitter l'entreprise. Résultat, plus de 1200 personnes ont préféré partir. Depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk, la moitié des employés de Twitter ont démissionné ou ont été licenciés. En tout cas, la nouvelle direction n'a apporté aucune justification ou explication à l'apparition de ces lits dans les locaux. Une absence de communication qualifiée de manque de respect par un employé qui préfère rester anonyme. Des lits qui ne demeureront peut-être pas sur place. La ville de San Francisco a ouvert une enquête pour s'assurer que ces nouveaux aménagements chez Twitter respectent bien la loi.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Elon Musk, qui pendant un petit laps de temps n'était plus l'homme le plus riche du monde, devancé par le Français Bernard Arnault et sa famille au classement Forbes des plus grandes fortunes. Mais c'est un classement en temps réel et Elon Musk vient de repasser en tête. Un mot du mondial, l'équipe de France prépare son quart de finale de samedi contre l'Angleterre. Bonne nouvelle, Mbappé est de retour à l'entraînement. Dispensé hier, il était bien présent sur le terrain cet après-midi. On va bien sûr y revenir largement à partir de 20h dans Europe 1 Sport. Mais d'abord, les marchés financiers. Didier Hamot de Boursier.com, quatrième séance consécutive de baisse à Paris.
Oui, ça continue, une petite baisse, moins 0,41%, 6660 points sur le CAC 40, un mouvement de consolidation, comme on dit, après le rebond de 20% du CAC depuis deux mois. Les craintes d'une récession mondiale pèsent sur le secteur pétrolier, en particulier avec un baril de retour au plus bas de l'année. Le baril de brut est à 78 $ ce soir. CGG perd 5,6% dans le secteur pétrolier. Vallourec, moins 3,5%. Total Energy, moins 2% à 56,54 €. Ailleurs en Europe, c'est pareil. La bourse de Francfort, 7,05%. Bruxelles, moins 0,6%. Madrid, moins 0,3%. Et donc le CAC 40 perd 0,41% exactement. 6660 points.
Merci Didier Hamot.
Et merci à vous, chère Hélène Zélani. On reprend les bonnes habitudes. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau point sur l'information. La météo, Marlène Durel, les températures de saison au sud, contrairement au nord où l'ambiance reste hivernale demain.
Et oui Raphaël, au plus chaud de la journée, ne comptez pas plus de 6 degrés sur la moitié nord. Hein. Météo France prévoit 2 degrés à Dijon, 3 à Rouen, Lille, Bourges, on peut même pousser jusqu'à Clermont-Ferrand, 4 à Paris et Strasbourg, Brest un petit peu en marge, 8. Et puis au sud, comptez plutôt 7 à 17 degrés, 7 à Bordeaux et Grenoble, 11 à Toulouse, 15 à Marseille, 17 à Ajaccio, on est un petit peu au-dessus des moyennes en Corse.
Et même si le soleil a fait son retour dans quelques villes comme Paris, la grisaille persiste et signe sur la moitié nord.
Et oui, c'est le gris qui s'impose à nouveau, sauf près des côtes de la Manche, un petit peu comme ces derniers jours où nous aurons des éclaircies, un petit risque d'averse aussi. Les massifs du Jura sous le soleil, mais bon, cette grisaille qui s'immisce jusqu'au Lyonnais avec de nombreux bancs de brouillard qui viendront se noyer dans la masse. Certains peuvent être givrants, ça dépendra des températures. Au niveau des précipitations, des petites brunes possibles entre les Hauts-de-France, les terres normandes, l'Île-de-France, la Lorraine, sous forme de flocons le matin, c'est possible. Ça dépendra là aussi des températures.
Et au sud, la pluie revient.
Oui, sur une grande partie de l'Aquitaine, en Occitanie, en Provence, c'est une perturbation qui déborde d'Espagne. Alors, beaucoup de pluie d'ailleurs l'après-midi entre le Var et les Alpes-Maritimes. Et puis, notez que dans la nuit de jeudi à vendredi, ces pluies vont remonter vers les Alpes, la région lyonnaise, l'est du Massif central aussi. On attend des pluies verglaçantes. Attention sur la route. Et puis, pour les amateurs de glisse, il faut que je le dise quand même, la neige apparaîtra en moyenne montagne dans les Alpes et puis aussi dans les Pyrénées à partir de 1900 mètres.
Il y en a qui sont contents de vous entendre ce soir. Merci, chère Marlène. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau Point Météo. Il sera 23h sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques instants. Nous revenons sur ce chiffre dont nous vous parlions pendant le journal. La consommation d'électricité a baissé de 8% la semaine dernière selon RTE. C'est lié à nos efforts en ces temps de sobriété énergétique. Mais ces efforts sont-ils liés à la peur des coupures ou bien à la peur de payer trop cher nos factures? Élément de réponse dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
Le 6 octobre dernier, le gouvernement présentait son plan de sobriété énergétique pour faire face à la crise. Il s'agit de faire baisser de 10% notre consommation par rapport à 2019. Deux mois plus tard, RTE rapporte une baisse de plus de 8%, particuliers et entreprises confondues. C'est lié à nos efforts en matière d'électricité. Mais cette baisse de la consommation est-elle liée à notre peur de coupure d'électricité cet hiver ou bien par la peur de voir nos factures flamber de façon totalement déraisonnable? Nous en parlons avec un expert, Puc Vin Nguyen, chercheur sur les politiques françaises et européennes de l'énergie et membre de l'Institut Jacques Delors. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également un homme qui voit dans ces chiffres la traduction d'une grande souffrance, d'une grande crainte des entreprises. Il le voit à l'échelle de sa région, le Pays Basque. C'est André Garreta, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors nous allons entendre votre point de vue, car votre chambre a voté il y a quelques jours une motion de soutien aux entreprises pour demander plus d'aide à l'État. Mais avant l'expertise, Puc Vin Nguyen, comment analysez-vous cette chute de la consommation? C'est corrélé à des températures de surcroît toujours plus fraîches hein, en cette fin d'automne et ce début d'hiver.
Oui, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'une part une baisse de la production du tissu industriel parce que, compte tenu de l'envolée des prix, que ce soit pour le gaz et pour l'électricité, la rentabilité économique n'est en partie plus là pour certaines des entreprises et donc elles ont fait le choix rationnel d'arrêter une partie de leur production. Et puis, on constate également une baisse au niveau du secteur résidentiel, et notamment donc des particuliers, mais cette baisse a encore un potentiel à être accélérée dans le temps, à partir du moment où on va rentrer dans la période la plus hivernale, et donc la plus difficile, et où chacune et chacun pourra jouer sur sa consommation à partir du moment où ils sont dans des conditions qui leur permettent justement de réduire leur consommation d'énergie.
Voilà, les particuliers, si j'ai bien compris, n'appliquent pas encore totalement le plan de sobriété énergétique. Hein. Ils vont s'y mettre dès qu'il fera encore plus froid. Si...
Alors, elle n'est pas au niveau, évidemment, des entreprises, mais on commence à avoir des soubresauts du côté des particuliers. Il faut aussi rappeler que jusqu'à présent, la communication du gouvernement n'avait pas été totalement intensive. Vous l'avez rappelé, le plan de sobriété avait été dévoilé il y a deux mois, mais ensuite, les températures particulièrement clémentes au cours du mois de novembre n'avaient pas forcément incité à une forme de sobriété. Là, désormais, on rentre vraiment dans le vif du sujet et on va pouvoir voir le véritable levier que représente la sobriété à partir du moment où on accompagne également les personnes les plus précaires.
Alors pour André Garreta, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque, qui parle hein, au nom des entreprises de la région, c'est clair, la pression économique joue un rôle essentiel hein, dans cette baisse de la consommation, baisse contrainte, hein, si je peux le dire comme ça, André Garreta.
Tout à fait. Bon, je voudrais dire aussi que les entreprises n'ont pas attendu cette crise pour agir sur leur consommation d'énergie. Et donc, elles vont immanquablement continuer à se mobiliser sur ces enjeux de sobriété, de décarbonation. Ceci dit, au Pays Basque, et je pense que c'est partout pareil, hein, plus de 3 entreprises sur 4 constatent justement, par rapport au surcoût de l'énergie, une rentabilité fortement impactée de manière significative. Et 60% nous indiquent que l'exploitation de leur entreprise est menacée à court ou moyen terme. Et donc déjà, en plus de ces difficultés de recrutement qui perdurent, des délais d'approvisionnement de plus en plus tendus,
de l'envolée des coûts des matériaux, de la pénurie de composants, bon, ben, vous comprenez que les marges se réduisent et les trésoreries deviennent préoccupantes. Voilà, et nous, 70% de nos entreprises que nous avons interrogées, eh bien, constatent une baisse forte de leurs marges et une réduction importante de leur trésorerie.
Voilà, il faut rappeler hein, le prix du mégawattheure d'électricité, il était à peu près de 75 euros à la mi-2021. Aujourd'hui, c'est 450 euros le mégawattheure, c'est ça hein ?
Voilà, c'est 450, c'est-à-dire 6 fois plus. Alors évidemment, ça dépend aussi des secteurs d'activité. Certaines entreprises ont besoin de consommer beaucoup d'énergie et sont donc plus impactées que les autres par la hausse des prix. Je pense évidemment aux usines de production qui sont en première ligne et donc qui doivent en effet donc à la fois faire fonctionner les machines et alimenter leurs locaux en énergie, mais aussi, et nous on a un gros exemple ici, le secteur de la métallurgie, hein, où des entreprises ont dû stopper leur production suite justement à cette explosion des prix de l'électricité.
On l'a entendu pendant le journal également, on peut citer le groupe Cofigeo hein, qui arrête 4 de ses 8 usines en France. Hein, Cofigeo, pour ceux qui ne voient pas, c'est William Sorin notamment. Vous demandez plus d'aide de l'État qui a déboursé tout de même 10 milliards d'euros hein, pour soutenir les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie, André Garetta.
Oui, tout à fait. Mais l'État-providence, vous savez, aura ses limites. Hein. Je pense que bon, ce que nous demandons aussi... Bon,
qu'est-ce que vous demandez concrètement, André Garetta ?
Ce que nous demandons, c'est que bon, toutes les entreprises bien bénéficient d'aide, pas uniquement les grands groupes, hein, bon, parce que certains secteurs sont plus touchés que d'autres, et l'augmentation du prix de l'énergie concerne toutes les entreprises. Mmh. Et bon nombre d'entre elles, bon, voient leur activité impactée et la nécessité donc de baisser les marges pour justement compenser la hausse des coûts. Et les quelques entreprises pour le moment épargnées, on le sait, sont celles qui bénéficient d'un contrat d'énergie à prix fixe auprès de leurs fournisseurs. Bon, ces contrats auront une durée limitée et vont devoir forcément être renégociés. Donc on demande une aide sur les renégociations. Et ensuite, évidemment... pour les entreprises qui ont besoin de matières premières pour fabriquer et emballer leurs produits, bon, la hausse aussi là, des prix de l'énergie va se faire ressentir, je dirais, de façon indirecte. Étant donné que les usines de production sont fortement impactées, bien, elles sont dans l'obligation d'augmenter aussi leurs prix pour rester rentables. Et donc, ça va se répercuter aussi sur les marges de leurs clients qui vont donc continuer à se fournir. Donc voilà, c'est un ensemble où il faudra que, justement, l'on puisse avoir des solutions. Mais ces solutions, elles doivent être négociées. Il faudra aussi que nous puissions avoir, quelque part, des négociations sur différents dispositifs, notamment des actions visant à faciliter les relations entre les fournisseurs d'énergie et les consommateurs, une mobilisation du médiateur de l'énergie et des courtiers experts, développement aussi des achats, je pense, des achats groupés, aussi une extension des contrats d'achat de gré à gré. Voilà, il faut des mesures d'accélération des projets d'énergie renouvelable aussi et d'autoconsommation. Donc vous savez que bon...
On va marquer une petite pause, André Garetta, excusez-moi de vous interrompre. On marque une petite pause et on reprend notre conversation dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous essayons de comprendre cette statistique rapportée par RTE hier. La consommation d'électricité en France a baissé de 8% la semaine dernière, 8% par rapport à la moyenne 2014-2019. Nous en parlons avec Pouk Vin Nguyen, chercheur sur les politiques françaises et européennes de l'énergie. Nous sommes également avec André Garetta, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque. Vous nous appelez également au 3921 si vous avez des questions. Pouk Vin Nguyen, avant la pause, André Garetta évoquait la limite des aides de l'État. Je le rappelais, 10 milliards d'euros déboursés pour venir en aide aux TPE, PME, mais aussi aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Ça a une limite, ces amortisseurs, comme les appelle l'exécutif ?
Oui, ça a une limite d'une part du fait, parce que
Cela crée des contraintes plus tard budgétaires qu'il faudra rembourser. Et donc la question est de savoir aussi s'il ne faut pas aussi à terme conditionner une partie de ces aides à la mise en place de mesures de restructuration et de transformation du modèle économique de certaines de ces entreprises qui étaient extrêmement polluantes. Mais à très court terme, il faut être très clair, il faut aider ces entreprises. Une partie du tissu industriel en dépend et il y a donc une nécessité de trouver derrière aussi des modes de financement qui sont pertinents pour pouvoir faire en sorte de passer cette première difficulté, mais également se rendre compte que nous sommes cette crise est partie pour durer et qu'il va falloir dès à présent permettre de déployer des leviers comme l'efficacité énergétique pour ces entreprises, comme par exemple, et M. Garrett en parlait, le développement par exemple d'autoconsommation pour faire en sorte de ne pas avoir à se reposer cette question au cours de l'hiver prochain ou dans les prochaines années.
Alors, ces aides, ces amortisseurs suffisent-ils ? Nous allons en parler avec Gabin qui est boulanger dans le Cher et qui nous appelle ce soir au 39-21. Bonsoir Gabin.
Bonsoir.
Est-ce que vous recevez des aides de l'État déjà pour commencer ?
Alors pour l'instant, on ne reçoit rien. On est à l'affût, on écoute et on essaye de se montrer et de comprendre. Alors le fameux amortisseur, le fameux amortisseur énergétique, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour nous comme pour les comptables, hein, parce qu'il y a une histoire de l'État prendrait 50% en charge au-delà de 325 euros du mégawatt. Enfin, moi, j'aimerais quand même qu'on rappelle avant de commencer que, sauf si je me trompe, mais l'EDF, c'est 83% à l'État. Donc, je pense qu'en termes de négociation, notre gouvernement est quand même bien placé pour négocier avec des gens qui connaissent, je pense, très bien. Aujourd'hui, la difficulté, apparemment, elle a été trouvée par nos collègues européens. Nous, on parle de 10 milliards d'euros sur la table, mais les Allemands ont mis 225 milliards d'euros pour bloquer le prix du mégawattheure à 130 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, la solution, elle est là. Moi, je suis boulanger. Mais aujourd'hui, c'est l'artisanat complet qui va dans le mur, que ce soit les boulangers, les bouchers, les poissonniers. On est tous très énergivores. Hein. On a des fours, des frigos, des congèles. Aujourd'hui, il faut bloquer le prix du mégawattheure.
Combien coûte la baguette chez vous, Gabin ?
Pardon ?
Combien coûte la baguette ?
Aujourd'hui, la baguette, elle coûte 1 euro. Je l'ai augmentée il y a 2 mois. Je l'ai augmentée au 1er septembre. Alors aujourd'hui, j'ai entendu à midi le président de la Confédération, M. Henrac, qui disait que c'était facile d'augmenter, entre guillemets, le prix de 5% ou de 5 centimes sur certains produits. Aujourd'hui, d'augmenter, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui se sont battus, je crois, pendant 2 ans pour avoir la fameuse baguette à l'UNESCO. Mais j'ai l'impression que dans quelques temps, la baguette, elle ne sera plus fabriquée en France ou elle sera fabriquée que par des industriels. Parce que les artisans, dans 3 mois, il n'y en a plus. Parce que faire une baguette à 1,50€, nous, on n'a jamais fait ce métier-là pour faire ça. Nous, je vous rappelle qu'on est des artisans, on est des métiers passion. On ne fait pas ce métier-là pour gagner des millions. On fait ce métier-là parce qu'on aime le faire. Alors après, se réadapter...
Servir le pain quotidien, si à vous entendre, qui ne sera bientôt plus quotidien.
Ça va être réservé à l'élite. Une baguette à 1,50€, mais qui est prêt aujourd'hui en milieu rural? Moi, ma clientèle, elle a en moyenne 60 ans. Ils n'ont pas des retraites qui ont augmenté plus que ça. Ils ont, comme tout le monde, des voitures et on est obligé d'avoir une voiture aujourd'hui en campagne. On paye l'essence une fortune. Donc à un moment ou à un autre, les gens ils vont choisir. Il faut arrêter de penser que les gens vont manger du pain tous les jours. Alors malheureusement, ils vont manger du pain tous les jours, mais ils iront chercher au moins cher. Et la concurrence déloyale, parce que les grandes surfaces, ils ne répercutent pas le prix du courant sur chaque produit. Quoi. C'est des frais généraux. Donc aujourd'hui, la solution, apparemment, nos collègues européens l'ont trouvé. Il faut bloquer le prix du mégawattheure. Des solutions, il y en a, sauf que c'est une question de volonté. Alors, on ne demande pas ce que le prix soit bloqué à après, il faut trouver un juste milieu. Hein. Le monsieur qui est spécialiste, il le disait. Aujourd'hui, on ne réclame pas un mégawattheure à 100 euros, mais à 150, 180 euros, aujourd'hui, la solution, elle est là. Ne serait-ce que pour réussir à faire nos prix de revient ou avoir une visibilité sur l'avenir, il faut qu'on ait des choses bloquées. Nous faire des amortisseurs, pour exemple, hein, quelqu'un qui paye 4 000 euros d'électricité là, avec les heures pleines d'hiver sur le mois prochain, le fameux amortisseur, c'est 120 euros d'aide. Donc à un moment ou à un autre, on fait quoi ? On se moque des gens ou... Je vous rappelle que pendant le Covid, l'artisanat, on était les rois du monde. On était tous là, on a tous été présents, on a tous peiné, mais on a tous travaillé quand même. Aujourd'hui, on rembourse des PGE. Et aujourd'hui, on nous dit, mais pas de panique, vous augmentez vos tarifs de 5% et les gens vont continuer à venir et vous arriverez à payer votre EDF. Et c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Alors nous, on veut bien se remettre en question, hein, commencer à 23h, travailler la nuit. Je vous dis, c'est une passion. Après, on va le faire. Hein. On va le faire. On va très tôt. Mais je vous rappelle quand même qu'en faisant ça, on fait quand même un pas de 50 ans en arrière, hein, parce qu'on va se retrouver avec des laboratoires vides à 8 heures du matin, parce qu'on fait travailler quelqu'un à 23 heures le soir, à 8 heures, il n'y a plus personne dans les labos.
On comprend vos craintes, cher Gabin. Merci d'avoir contribué à notre discussion. André Garreta, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, Pays Basque, est avec nous. Alors, ça se passe dans le Cher, le témoignage de Gabin, mais c'est un discours qui ne vous surprend pas, que vous entendez également dans votre région.
Tout à fait, c'est un discours, c'est vrai que notre souhait aussi, c'est qu'il y ait des actions et des mesures d'urgence qui soient mises en œuvre afin justement que cette situation cesse et qu'elle soit stabilisée, je dirais, autour de prix qui permettraient justement de conserver de la compétitivité et notamment de la visibilité donc pour le tissu économique. Bon, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'Union européenne. Bon, c'est vrai qu'il paraît urgent, je dirais même capital, que l'Union européenne poursuive ses initiatives afin de peut-être de repenser les marchés de l'énergie, la dérégulation actuelle et les mécanismes de ces marchés, à mon avis, doivent être revus. Bon, nous demandons aussi que les entreprises puissent disposer d'un guichet de secours, qui serait une véritable roue de secours, qui permettrait, le cas échéant, justement, de faire valoir à chacun sa situation particulière qui justifierait justement une aide supplémentaire. Et ce, notamment, quelle que soit la taille de l'entreprise, quoi. Parce qu'il serait quand même, à mon avis, anormal que seuls les plus grandes entreprises aient cette capacité à obtenir directement des rallonges auprès de Bercy.
Alors, il y a aussi des aides complémentaires qui sont décidées à l'échelle de la région, c'est le cas notamment en Normandie. J'invite nos auditeurs à se rendre sur le site d'Europe1.fr pour en savoir plus. Dernière question pour vous, Pugvin Nguyen. La France est actuellement au plein de ses capacités, ou quasiment, elle importe beaucoup d'électricité à ses voisins. On le rappelle, elle ne peut actuellement produire avec sa filière nucléaire que 60% de la consommation. Il reste l'hydroélectrique, les fameux barrages qu'on met de côté pour les prochains pics, les fameux éco-watts orange et rouge.
Oui, tout à fait. L'hydraulique servira lorsqu'on aura vraiment besoin d'utiliser cette ressource, c'est-à-dire dans les pics de consommation, aux heures hivernales particulièrement froides, puisqu'il faut comprendre que la France est un pays dit thermosensible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un degré en moins en termes de température, ça va demander un appel de puissance électrique supplémentaire. Donc très, très concrètement, à l'heure actuelle, on réserve cette ressource et cette denrée rare qu'on a eu du mal à remplir du fait des sécheresses de cet été induites par le réchauffement climatique, pour les périodes les plus critiques. Et on se repose également sur les importations d'électricité depuis nos voisins européens. C'est une forme de solidarité européenne. Et le monsieur le rappelait, il faudra aussi réfléchir à la manière dont on réformera le marché de l'électricité. Mais à très court terme, il faut comprendre que ce marché de l'électricité permet quand même d'assurer d'une part la sécurité d'approvisionnement électrique et en même temps faire en sorte d'éviter un blackout généralisé.
Merci beaucoup, Pugvin Nguyen, chercheur sur les politiques françaises et européennes de l'énergie et membre de l'Institut Jacques Delors. Merci également à vous, André Garreta, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne, Pays-Bas. Dans quelques instants, nous évoquons un autre sujet dans l'actualité aujourd'hui. Vous avez sans doute vu ces images assez édifiantes des policiers municipaux qui escortent des élèves de maternelle dans le nord de Paris en raison de la trop forte présence de consommateurs de crack sur le chemin de l'établissement. Nous en parlons dans quelques instants avec un riverain. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous en sommes là. Dans la capitale de la France, des élèves de maternelle sont escortés sur le chemin de l'école par des policiers. Le chemin de l'école Charles-Hermite, dans le 18e arrondissement pour être précis, pour y aller, les familles doivent emprunter un petit chemin à l'abri des regards et où l'on rencontre des consommateurs de crack, cette drogue épouvantable, très addictive et destructrice, source de tant de tensions et d'exaspération dans le nord de Paris. Nous sommes avec un riverain, membre de deux associations, Naïve Village et Union Parisienne. Bonsoir Bruno Duboc.
Bonsoir.
On en est là donc à faire escorter nos enfants par des policiers pour aller à l'école.
Exactement. Exactement, et c'est lamentable parce que ça arrive maintenant, ça aurait pu arriver avant, déjà depuis 2015, depuis que la colline du crack a été retirée.
Et plus proche voilà. de nous, il y a également eu le démantèlement du camp de Forceval. Hein. Ça n'a,
oui, Forceval, avant, auparavant, ouais. Avant, il y a eu Éol. Mais à la porte d'Aubervilliers, quand il y a eu le démantèlement comment, de la colline du Crac, comment la porte d'Aubervilliers s'est retrouvée envahie, quoi. Personne n'a contrôlé.
Alors, pour l'instant...
Et donc là, actuellement, là, quand je parle de la porte d'Aubervilliers, je parle également de la rue Charles-Hermite, du square Charles-Hermite, des écoles Charles-Hermite.
De tout, la, de tout l'arrondissement, en fait, quoi, vous n'arrivez pas à sortir de chez vous sereinement
Ah non, à une époque, c'était impossible. Hein. Même, je vous parle, il n'y a pas encore très longtemps, c'était impossible de prendre un café en terrasse, hein, ou alors de quitter sa place. Quoi. Autrement, on ne trouvait même pas sa tasse de café ou sa cigarette, hein, si on était fumeur.
Alors, pour l'instant, sur ce chemin de l'école Charles-Hermite, pas d'agression. Mais la présence de personnes totalement dépourvues de discernement, ça angoisse, hein, on s'en doute. Hein.
Bah exactement. En plus, comment faut voir là, comment le chemin, c'est un calvaire, quoi. C'est, en fait, c'est.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à quoi ça ressemble, Bruno Duboc?
Bah déjà, ça comment s'allonge le périphérique au départ. Ensuite, s'allonge comment l'aréna, et ensuite après on arrive sur Valentin Abeille, c'est-à-dire la maternelle qui est rue Charles-Hermite à la porte d'Aubervilliers. Il faut traverser comment, le périph, et après comment le croiser, tourner à gauche après avoir enjambé le périph, en fait. Et après, c'est un chemin de croix, quoi. Ou alors on passe par la porte de la chapelle, où avant il y avait la colline du Crac, c'était exactement pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien, c'est sombre. Puis,
voilà, c'est un lieu propice voilà, à la consommation de produits stupéfiants.
Ah bah, évidemment, oui, bah ça, oui, ça c'est vrai, ça depuis, depuis au moins 2015. Quoi, c'est-à-dire,
Et la présence de policiers, quoi, ça vous rassure quelque part
Bah, c'est-à-dire ça rassure les personnes qu'on accompagne. En fait, c'est la police municipale qui n'est même pas armée. Et enfin, bravo à eux, hein, puisqu'à Paris, la police municipale n'est pas armée. En fait, c'est des cibles, hein. Bon, ça va, ils sont très courageux. Ce soir, j'ai vu comment un homme et une femme en bicyclette pour accompagner les enfants, quoi, les parents d'élèves. Quoi.
Voilà, parce que quand vous vous retrouvez confronté à un consommateur de crack, c'est vrai qu'on ne sait
absolument pas. C'est 30 ou 40. Hein.
Alors, voir à des dizaines de consommateurs de crack, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vous évoquiez, cher Bruno Duboc, la porte de la chapelle. Nous allons tout de suite prendre un nouveau témoignage. Nathalie, qui nous appelle au 3921. Bonsoir, Nathalie.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien ? Vous habitez, hein, porte de la chapelle ?
Oui, absolument, au 86 porte de la, rue de la Chapelle.
On le rappelle, il y a 7 ans, la colline du Crac a été démantelée, mais les problèmes sont toujours là, si j'ai bien compris.
Ben, c'est même pire que ça, parce que quelque part, la colline du Crac était à quelques encablures au niveau du périphérique. Désormais, la colline du Crac, elle est chez nous, elle est devant, elle est à notre porte. Et le déplacement récemment d'une foule de population, de dealers, de drogués, de migrants, de prostituées, incluant les taxis clandestins, les traiteurs clandestins, enfin en tout cas toute une population extrêmement dangereuse pour pouvoir vivre une vie normale, fait que nous vivons dans une insécurité, avec des nuisances incroyables, puisque ces personnes qui vivent sous nos fenêtres s'alcoolisent à longueur de journée et de soirée, écoutent de la musique à fond, sont nourris ou se nourrissent et jettent tout leur détritus dans la rue. Et quand on essaye de voir avec eux pour améliorer la situation, eh bien ils nous disent que de toute façon, ils s'en foutent puisque la mairie finance tous les matins un nettoyage complet des trottoirs et que donc c'est tout à fait normal pour eux de vivre de cette façon. Ce qui est le problème en réalité, c'est qu'il y a une absence totale des forces de police et de gendarmerie. Ils se disent impuissants quand on réussit à leur parler. Et ils ont parfois même des consignes pour ne pas intervenir. Vous savez, nous, c'est sous nos fenêtres. On les voit, on les repère, on les connaît. On connaît les dealers, on connaît les caches de drogue. Il suffirait que les policiers soient là pour intervenir. Pas une arrestation, pas un contrôle, rien du tout. La question quand même, on réclame, on appelle à longueur de temps, bien entendu, vous vous en doutez, les forces de police. Nous réclamons des forces de l'ordre, de la tombée de la nuit au lever du jour, parce que c'est insupportable pour les gens qui doivent travailler de ne pas dormir à cause cause de ces nuisances incroyables. Nous demandons la fermeture des restaurants, enfin, ou pseudo-restaurants qui distribuent de l'alcool à tout va. C'est ça, d'ailleurs, qui sédentarise sous nos fenêtres, c'est toutes ces personnes-là. Il n'y a aucune gestion des problématiques. Et
Nathalie, on doit fermer tous les bars et restaurants du quartier ?
Ben, pas tous les bars et restaurants du quartier, mais en tout cas, ce qui est sous nos fenêtres et qui agglutine toute cette population, toute cette faune qui de fait attire les drogués et par centaines de personnes. Hein, c'est pas juste quelques dizaines. Hein, eh bien, à un moment donné, oui. Vous savez, vous avez aujourd'hui, on l'entendait tout à l'heure d'ailleurs avec les boulangers, quand vous faites votre travail, honnêtement, vous êtes contrôlé. Vous avez la direction des services vétérinaires qui va rentrer chez vous, qui va prendre des températures, qui va vérifier que tout est aux normes chez vous. Là, vous avez des établissements qui, à mon avis, sont loin d'être aux normes. Il n'y a jamais un contrôle. Vous avez des gens qui font des brochettes dans la rue sur des caddies. Enfin, il y a de tout. Ça, on ne sait pas dans quel pays on vit aujourd'hui. C'est ça le problème. Et on n'a pas un élu qui se déplace. On a quand même des ministres, on a des préfets.
Mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu au mois d'octobre lorsque le camp de Forceval a été démantelé. Il a promis de laisser jusqu'à 1000 policiers. Donc là, vous nous dites que...
Non, c'est une plaisanterie.
En fait, c'est... Ouais.
Non, mais tout ça. Et vous savez, quand j'ai écouté le maire ce midi, mais je me suis dit, mais on ne vit pas dans le même monde. Alors lui, il est peut-être dans le beau 18e, nous, on est dans celui-là, nous, on le vit, le truc. Mais c'est ubuesque, je peux vous dire que, enfin, on boue quand on entend tout ça. La réalité, il faut qu'ils viennent voir, qu'ils viennent constater, parce que c'est insupportable. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, vivre ce genre de choses et être laissé à l'abandon. Les Jeux Olympiques et l'Arena, c'est quand même bien. Ça aussi, moi, je voudrais aussi que Tony Estanguet vienne maintenant voir comment c'est. Parce que est-ce qu'on va faire comme dans les pays totalitaires où on va cacher tout ça le temps des Jeux Olympiques, comme c'est fait en Chine ou autre, et puis après remettre tout, et puis enlever les murailles et relaisser vivre sous cette forme-là ces quartiers. À un moment donné, ça ne va pas. L'immobilier s'écroule, tout ce qui se construit de nouveau ne se vend pas. On est ostracisé, mais par contre, la force publique, en tout cas, les missions régaliennes de l'État, chez nous, elles ne sont absolument pas garanties. Et ça, c'est absolument inadmissible.
Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir apporté ce témoignage. Hein, c'est votre quotidien, votre réalité. On était très heureux de l'entendre ce soir sur Europe 1. Peut-être que le maire, Le Joindre, hein, qui était notre invité à midi sur Europe 1, vous a entendu. Merci à vous, chère Nathalie.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé. Terminons avec cette marque d'une époque. Nous parlions il y a quelques semaines du désamour des jeunes Français pour les mathématiques. Il y en a aussi un pour l'orthographe. Depuis 1987, une enquête est menée sur une dictée soumise à des élèves de CM2. Elle a été menée à 4 reprises. En 1987, on relevait en moyenne 10 erreurs par copie. En 2021, il y en a plus de 19, il se passe quelque chose, les enfants ont du mal avec l'orthographe de nos jours, l'orthographe grammaticale en particulier, on l'a entendu avec Louise Salé dans le journal de 19h tout à l'heure. Nous en parlons maintenant avec Jean-Rémy Girard, professeur de français et président du syndicat des collèges et lycées. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors que se passe-t-il ?
Eh bien, il se passe quelque chose en fait qu'on sait, hein, puisque cette enquête elle est menée depuis longtemps et avant ces résultats qui viennent de 2021, il y avait les résultats de 2015 qui étaient légèrement au-dessus, on va dire, de ceux qui viennent de tomber. Mais effectivement, il y a une chute très importante du niveau de maîtrise de la grammaire et de l'orthographe. Mais effectivement, c'est encore plus inquiétant parce que c'est surtout la grammaire, hein, les accords au pluriel, au féminin, les terminaisons des verbes. Effectivement, à chaque fois que cette enquête, qui est une enquête du ministère de l'Éducation nationale lui-même, hein, est menée, eh bien, on voit que les résultats sont de plus en plus mauvais. Et ce, pour toutes les catégories sociales. Les meilleurs, enfin, les plus favorisés réussissent mieux que les plus défavorisés, mais néanmoins, chaque catégorie sociale descend.
Voilà, et les filles sont un peu plus performantes que les garçons, avec 17 fautes en moyenne contre 21 pour les garçons. En fait, nos enfants sont beaucoup moins exposés qu'autrefois au livre, à la lecture, hein, qui est le meilleur moyen, enfin c'est vous qui allez me le dire, c'est vous le professeur de français, cher Jean-Rémy Girard, d'assimiler les complexités, certes, mais les subtilités de la langue française.
Et alors, on ne croit pas, nous, au SNALC, dans notre syndicat, que ce soit uniquement une question de lecture de livres, même si ça a évidemment un rôle à jouer. On pense que c'est une question d'enseignement de la grammaire, très clairement.
Alors, la fameuse dictée, la dictée est-elle aussi répandue qu'autrefois ?
La dictée est moins répandue qu'autrefois, elle existe toujours, hein, mais c'est pas unique. Enfin, la dictée n'est pas la seule modalité d'apprentissage de la grammaire. La dictée est plutôt, j'allais dire, une sorte d'exercice pour vérifier qu'on a compris et pour vérifier qu'on comprend comment la langue fonctionne. Mais l'apprentissage de la grammaire, ça se fait par des leçons, par des exercices qui sont parfois assez répétitifs aussi. Et c'est quelque chose qui a été très clairement montré du doigt, je dirais même ostracisé, hein, dans le système éducatif. Moi, quand j'ai commencé en collège, j'ai enseigné 9 ans en collège, je n'étais pas supposé faire des heures de grammaire dans la semaine. J'étais supposé faire des séquences pédagogiques où, au détour d'un texte, on étudiait un point de grammaire, comme ça, qui arrivait par là, et ensuite, voilà, on passait à autre chose. Et donc, on a, je dirais, c'est pas les enseignants, hein, les fautifs ici, c'est que très clairement, le système éducatif, la formation, hein, ce qui s'est passé dans la formation, a très clairement poussé à dire que la grammaire était quelque chose de bête, de répétitif, de pas intéressant, que ça ne faisait pas sens. Et donc, effectivement, on formait les professeurs à ne pas faire de leçons de grammaire et à ne pas construire le système grammatical de manière progressive, très clairement.
Jean-Rémy Girard, professeur de français et président du syndicat des collèges et lycées, plaide pour rétablir les cours de grammaire ce soir sur Europe 1. Alors, les élèves du primaire, hein, du collège, du lycée sont moins exposés à la lecture qu'autrefois. On lit moins, c'est un fait, on lit moins de livres, mais on lit beaucoup les réseaux sociaux. Hein. Il y a de la lecture dessus, souvent bourré de fautes d'orthographe. On s'envoie aussi beaucoup de textos, de messages sur les services de messagerie en ligne. Là encore, ça n'aide pas, hein, à assimiler l'orthographe.
Non, ça n'aide pas, mais une fois encore, c'est plus une conséquence qu'une cause, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on écrit en faisant parfois des fautes ou en raccourcissant, etc. Ça, c'est plus une conséquence du fait de la non-maîtrise. Ensuite, on peut... l'abréviation, c'est quelque chose qui s'emploie pour tout le monde, mais l'important, c'est de savoir comment le mot s'écrit. Et une fois encore, c'est pas comment le mot s'écrit, mais c'est surtout comment il s'accorde et se conjugue avec le reste de la phrase. Et en fait, là, les problèmes qu'on a aujourd'hui, nous, les professeurs de français et nos collègues des professeurs du primaire, professeurs des écoles, puisque au final, on syndique tout le monde, c'est effectivement sur cette maîtrise globale de la langue et cette compréhension du fonctionnement de la langue. Et quand c'est pas bien maîtrisé, ça veut dire qu'on sait pas trop si ça c'est un nom, si c'est un adjectif, etc. Et ça a aussi des conséquences sur la lecture des livres. C'est-à-dire que ne pas bien maîtriser le système de la langue française, ça ne facilite pas la lecture d'ouvrages, tout simplement.
Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, professeur de français, président du syndicat des collèges et lycées. Restez avec nous sur Europe 1. On refait un point sur l'actualité dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.